Oui, ou bien comprendre, oui, ça veut dire. M'a suivi, oui.
Bon, alors, c'est ça. Yo même, yo dit que, yo pense que, et si bien 30 monde, avec
listening to CKUT 90.3 FM.
Revolution.
The funk.
Revolution.
The funk.
The CKUT 90.3 FM in Montreal.
For your mind and for your hips. This is music and sounds from the mothership. The mothership cassette archives. 25 years of funky revolutions.
Music originated from the confrontation of the struggle. So the roots really is from matter of struggle. That's where it's from. Freedom, that's what it's asking for. Acceptance, what it needs, and understanding.
You know, the funk is definitely a music that comes from your heart, and it's a music that's a continuum of the African presence in the urban world, but it comes from your heart, and it's informed by your mind. And once you create the balance of those energies, you can make somebody get it. You did.
For your mind and for your hips. These are interviews from the Mothership. The Mothership Cassette Archives, celebrating 25 years of funky revolutions. On episode 39, we continue with the prism of Créolité, but move from the Indian Ocean to the west coast of Africa and Guinea-Bissau, a 2014 interview with Ernesto Dabo. And then move north, in fact, to musicians from Algeria and Morocco, working and living in France, who continue to explore and have explored the margins and the parameters of Ganawa music, as well as its encounters with other rhythmical forms. An interview with the leader of Ganawa Diffusion in 2012, Amazigh Kateb, about Freeman's music and the similarities between Ganawa and rhythm musics emerging from other histories of slavery. Our interview with Ernesto Dabo, an important figure, both as composer, musician, singer, and poet. The first to record modern Gumbe music in 1972 from Guinea-Bissau, we start our program with Mba Bolama, Jarson Ernesto Dabo.
Lembra pelebre de orabe, telegra de orabe, sinjan de orabe, tachan de orabe, ponto sinho de orabe, quinta bujugu de orabe, ofi de orabe, apure bombero de orabe, tumanya bulama nyamine sabai. Manya bulama nyamine sabaya, arandesa kiola deya, arandesa kiola deya. Babulama chora pena, babulama chora pena, mama chora pena.
Opinja!
Babulama, chora pena, babulama,
tristeza de una niña. Ay, mamá, ay, mi niña, carrandeza de una niña, carrandeza de una niña. Ay, mamá, ay, mi niña, tristeza de una niña.
Pop 90.3 MF with myself, Khalid. Pleasure to be with you this afternoon. And we continue, as promised, our first show on the artists of Nuit d'Afrique. Our forthcoming guest is a gentleman that we got to know only musically, briefly, in the fall, with the release of a very beautiful, sweet album. Lyrical in the sense of the sound, of the gentleness on occasion. An album released in 2013 by called L'Embrassa. And so I'd like to welcome Bienvenue sur les ondes, Ernesto Dabo.
Merci.
Vous êtes, en fait, je suis très honoré de vous avoir, ce que j'appellerais une des grandes figures de la musique en provenance de Guinée-Bissau. Et je vous remercie de vous avoir déplacé. Votre spectacle, au moins dans le cadre du festival Nuit d'Afrique, se tiendra dimanche le 13 juillet au Club Balato à partir de 20h30. L'album que j'ai découvert à la fin de l'année dernière, L'Embrassa, elle peut se traduire par mémoire, n'est-ce pas?
Mémoire, oui. Souvenir.
Pour vous, c'était quoi ces souvenirs? Parce qu'en fait, c'est l'apogée d'une longue carrière musicale que cet album, d'une certaine manière.
D'une certaine manière, c'est comme que un répositoire de toute une série de moments, d'états d'esprit que j'avais traduit en chansons. Et chaque chanson, pour moi, c'est comme qu'un petit cadre d'un moment vécu pour la société guinéenne dans de laquelle je fais partie. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, peut-être le titre convenable pourrait être « Souvenir, l'embrance » dans notre créole.
Déjà, je veux aller partir dans plusieurs directions, mais parlons quelques questions ou faits historiques dans ce parcours. Parce que Guinée-Bissau, c'est soit en 74, l'indépendance de à partir de...
La proclamation de l'indépendance était avant le 4 septembre 73, et la guerre avait duré encore un an à peu près, jusqu'à la tombe du régime de Salazar au Portugal le 25 avril. Le 10 octobre, les Portugais se sont définitivement et formellement retirés avec la reconnaissance de notre État, qui était déjà membre des Nations Unies, pareillement comme le Portugal d'ailleurs. Et alors, disons que la sortie définitive du régime colonial s'est vérifiée en octobre de 1974.
Je comprends que vous avez en fait votre service militaire pour le Portugal également.
À l'époque, j'étais un enfant quand j'étais envoyé au Portugal. C'était la mode à l'époque. Certaines familles d'envoyer les enfants à la métropole à étudier. Et la guerre s'est déclenchée et tout le monde était forcé à aller servir. Et moi, je m'ai trouvé au Portugal. Sans autre possibilité ni sortie. J'étais obligé d'aller servir à l'armée portugaise dans la marine.
Et est-ce que c'est de là, donc, c'est ce que je ne savais pas que c'était la marine, mais cette expérience au Nauticus ou...
Oui, le Nauticus, c'est une deuxième expérience dans le domaine musical.
Okay.
En fait, j'avais commencé dans une école, j'étais dans une école agricole. J'avais décidé de faire une formation dans l'agronomie, l'agriculture. Et pendant cette période, à l'école, moi et quelques amis m'ont invité à faire des tests pour voir si je pourrais participer à un groupe qui se formait à l'époque. Bon, j'ai fait les tests, ils ont aimé, et à partir de là, je suis devenu chanteur, artiste, c'est pas moi là. Et entre-temps, je suis recruté pour l'armée, j'arrive à l'armée, il y a encore une autre proposition de participer à la formation des Nauticos. Et là, je me suis dit, ok, je participerai à ça. Et comme je savais que c'est l'orchestre, oh, le commandant, là, aimait mon travail, j'aurais un moyen de me défendre, d'être utilisé dans la guerre. J'avais fait ma guerre à la guerre en chantant. Et l'orchestre, à un moment donné, me prenait comme incontournable, disons, comme ça, entre guillemets. Et je suis resté comme musicien jusqu'à la fin de mon temps de service. Et c'est là qu'à partir de là, j'ai dit non, je dois beaucoup à la musique parce que elle m'avait permis de me défendre d'un fait que peut-être allait me mettre en situation de trauma définitive dans ma vie. Mais là, Dieu est grand, comme on dit chez nous.
Vous avez participé très tôt, en fait, dans les enregistrements d'une musique créole, indigène, à partir de cette expérience. Pour vous, les mémoires ou les racines de votre musique, vous les allez musicalement, vous allez chercher l'inspiration
dans notre folklore essentiellement. Le point de départ, c'est le folklore, mais l'ouverture au monde, elle est là. Nous sommes dans un courant d'échange permanent avec tout le monde. Et comme j'ai vécu en plusieurs circonstances et dans plusieurs espaces culturels, j'ai eu la chance d'une certaine polyphonie de mes conceptions musicales. Et bon, à partir de notre folklore, j'avais essayé de traduire mes sentiments et mon mixage culturel, mon métissage culturel, mieux dit. Et c'est ça qui m'avait amené à garder les racines identitaires de nos chansons folkloriques, mais en le faisant de se développer dans un espace universel, disons comme ça.
Je vais, si on peut prendre juste un moment, on va se tourner sur l'album et on reviendra par la suite pour continuer. Mm-hmm. En studio, Ernesto Dabo, l'album lancé l'année dernière, L'Embrassa. La chanson, on va écouter, c'est, je pense, c'est la première, mm-hmm. Juicy.
Juicy.
Oui. Et ça s'appelle, ça veut dire?
Juicy, c'est un nom d'un grand compositeur, interprète, poète. Nous avons créé la première formation musicale moderne du pays qui avait déclenché tout ce processus qui est arrivé à aujourd'hui. Parce que pendant la période coloniale, là, nous n'avions pas de groupe qui chantait nos folklores. C'était dans le cadre de la politique d'assimilation, d'aliénation du régime colonial, ne pas permettre la diffusion de la culture locale. Et là, nous avons rompu cette barrière en créant une première orchestre, en défendant notre langue nationale, et à partir de là, bon. Et ce monsieur avait eu un rôle particulier dans ce processus. C'était comme un frère à moi jusqu'à présent. Il est décédé dans un accident d'aviation en 1977 avec 27 ans à peine. Et dans ses 27 ans de vie, il a laissé une œuvre colossale. Et en hommage à tout ce qu'il représente pour nous, là, c'est pour cela que je l'ai dédié à cette chanson.
Sur les ondes du peuple, un premier titre de notre invité, Ernesto Dabo. On CKUT 90.3 FM, live in studio, Ernesto Dabo plays Sunday the 13th of July at Nuit d'Afrique at Club Balatou.
Se barigas marado diante na luta que verdad en aquel boca que está. Ay, sí. Eu sei que uma pantempa sem contar, sem meninos de criação na quirce, sem marianas repartir na praça, sem tempo de computer a ficar. Manga deles, eu sei que manda ponta. Sim, manga deles, eu sei que manda ponta. Manhã, o tempo roçou onde eu sei. Babia da manhã, o tempo roçou onde eu sei. Vi música de canta, vi música de jamo, vi música de canta.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Vraiment, vraiment très, très beau. Et quand je disais une musique lyrique, c'est cette douceur, cette joie. C'est pas toutes les chansons,
qui sont comme ça, mais il y a quand même un élément là-dedans. Sur les ondes du peuple 90,3 MF, on a invité en studio sur les ondes du peuple Funky Revolutions, Ernesto Dabo, en spectacle dimanche le 13 juillet au Balatou. Votre juste la courte, bref histoire, et on n'a pas touché aux différents groupes, mais j'ai dit en commençant notre entretien que vous étiez une des grandes figures de Guinée-Bissau. Et c'est vrai, en outre, le premier long album sorti, vous avez fait partie de cette création. Notre émission, ça fait des années que je le fais, et à fur et à mesure que le temps passe, je découvre de plus en plus les musiques africaines, et j'essaie de partager leurs racines, l'effet colonial, l'effet de la métropole, l'instrumentation importée. Et chaque zone, chaque pays, quoi qu'elle partage, on peut dire, des étapes similaires à ces particularités. En outre, l'élément traditionnel ou folklorique sur lequel on construit ces musiques modernes. Et avant d'aller là-dessus, le fait que vous avez été avec d'autres jeunes, encore sous la jogue coloniale, à créer et annoncer une musique créole de nous, à l'égard de cette force coloniale. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Est-ce que c'était une partie d'une lutte? Est-ce que ça faisait une expression naturelle? Ou c'était vraiment une coïncidence historique que vous, jeune homme, vous vous êtes trouvé à cette étape-là? Comment?
Non, je crois que c'était une conséquence de la lutte de libération qui se déroulait chez nous. Malheureusement, le régime colonial portugais, c'était le seul qui avait refusé carrément de négocier les indépendances. Et là, il avait forcé mon pays, l'Angola et le Mozambique particulièrement, à prendre des armes pour acquérir son indépendance. Ça nous avait coûté un prix qu'on ne peut pas même... Bon, et par conséquence de cette lutte armée-là, c'est déclenché tout un processus de récupération de notre identité. Et dans ce processus de récupération de notre identité, plusieurs arts, particulièrement la musique, la danse, le théâtre, la peinture, la poésie, tous ces arts-là ont contribué chacun à sa façon pour élever le niveau de conscience des gens et présenter les raisons, les causes et motiver les gens pour la cause de la liberté, de la libération de notre pays. Bon, nous étions groupe de jeunes de centres urbains là, qui avaient eu le privilège d'aller à l'école, qui avaient eu le privilège de connaître un peu ce qui se passait ailleurs dans le monde et de voyager très tôt. Naturellement, nous avons acquis des autres motivations supplémentaires pour faire quelque chose dans le sens de promouvoir la lutte en utilisant comme recours, ce qu'on avait comme talent pour la musique et pour d'autres arts. Bon, c'est ça qui nous avait d'abord motivés à jouer notre folklore, à chanter en créole, de façon à récupérer cet élément identitaire, d'ailleurs fondamental. Et nous avons créé des chansons avec des poètes de notre génération. Nous avons créé des chansons qui ont encadré le sentiment national à l'époque. Et ça, vraiment, c'était quelque chose qui... Moi, je vous le jure, toujours que je me rappelle de ça, là, j'ai des frissons. Parce que le premier jour que cette chanson était entendue à la radio, c'était extraordinairement émouvant. Toute une ville, tout un pays, toute une nation qui d'un coup s'est redécouvert, il a redécouvert son identité par la via de via les chansons qu'on avait écrites à l'époque. Et le lendemain de cette annonce à la radio, de la présentation de nos premières chansons à la radio, toute la ville de Bissau se demandait, mais qui sont, où ils sont, pourquoi, mais c'est beau. Vous voyez, bon, cette fierté-là commencé à monter. Quelques mois après, dans tous les quartiers de Viseu, on voyait que des jeunes apprennent la guitare, s'organiser avec des petits instruments. Et un an après, on avait déjà des dizaines de formations musicales. Et en conséquence, la première orchestre qu'on avait créée s'appelait Kobiana Jazz. Kobiana Jazz, c'était fondé pour moi, Zé Carlos, Ali Oubari, Rui Davis, Gout, Duku Kassournand, Mamadou Bassa, Maké, sont des noms des amis avec qui nous avons joué pour la première fois en public. Et après ça, moi j'ai retourné parce que j'ai vivais au Portugal. Je retourne au Portugal après une vacance que j'ai fait au pays, qu'on avait profité pour créer le groupe. Et au Portugal, je reprends aussi l'idée de créer un autre groupe pour faire la même chose qu'on venait de créer à Bissau. Et nous avons créé un groupe qui s'appelait Djorson. Et avec ce groupe Djorson, nous avons commencé à promouvoir la musique moderne bissau-guinéenne à l'extérieur du pays. Et moi, j'avais déjà, disons, comme que un réseau plus ou moins bon là, de rapport dans le milieu. Et j'ai présenté une proposition à un ami à moi, qui lui a dit, écoute, on fait de la musique bissau-guinéenne. Il dit, quoi? Je dis, oui. Musique bissau-guinéenne. Il dit, laisse-moi écouter ça. Je l'ai fait écouter, il s'est solidarisé avec le projet, il nous a ouvert la porte, et comme ça, nous avons enregistré le premier single de l'histoire de la Guinée-Bissau. La discographie, l'histoire de la discographie bissau-guinéenne commence avec ce premier single. Et dans ce premier single, il y a une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Mbabulama. Mbabulama, l'histoire est simple. Moi, je suis originaire de cette ville. Mbabulama, c'est une ville qui était capitale de la colonie à l'époque et qui est tombée dans une situation de dégradation presque totale en période de la guerre coloniale. Et moi, une fois, j'étais là-bas pendant cette période. J'ai vu l'état de dépression, de dégâts, de ce que la guerre fait de mal sur toute une société. Et je suis rentré chez moi, je ne pouvais plus me tenir. Je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Et là, j'ai écrit cette chanson. Je l'ai donné un rythme assez joyeux, là. Mais pour cacher le message, dans le message, il y avait 3 ou 4 mots qui disaient, écoutez, malgré tout, là, nous arriverons un jour à nous libérer de ce fardeau-là. Il faut nous maintenir unis et nous battre pour changer la situation. Plus ou moins, avec des... ça c'est mes mots maintenant, mais le sens c'est ça. Et je crois bien qu'on a pu contourner le système de vigilance coloniale, parce qu'ils pensaient, oh voilà, ils sont contents, ils dansent dans le rythme, mais le message passait. Et c'est comme ça qu'on a réussi à introduire ces chansons et à avoir un premier disque. Et ce disque avait aussi marqué une étape dans l'évolution de notre musique.
Ce que vous décrivez donc, c'est que la musique peut être ou contribuer à l'acte révolutionnaire, l'acte de résistance. Et est-ce que, avec dans cette lutte de la libération, est-ce que la musique permettait donc de passer ce message populaire, culturel, d'une manière que la politique, que le discours politique, que les tracts ne pouvaient pas? Est-ce que pour vous, c'était quand vous aviez caché ces mots-là, est-ce que c'était très conscient l'acte? Est-ce que c'était un acte de résistance ou un acte de communication, de libération? Comment vous avez vécu ce moment de composition pour vous?
Oui, nous étions, comme je l'avais dit, des jeunes qui avaient eu un privilège de passer par une formation qui nous permettait déjà plus ou moins entendre ce qui se passait à l'époque. Et pour cela, nous nous sommes engagés dans les structures clandestines du parti qui faisaient la lutte. Et disons que nous étions d'abord des militants. Et en tant que militants, on utilisait tous nos moyens, toutes nos capacités pour la militance dans laquelle on était engagé. Et là, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à faire la musique en Europe. Et naturellement, c'était la musique soul, rock et des autres musiques brésiliennes. C'est ça que je faisais. Quand je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement ça, c'est que je devrais faire en priorité. Je dis, non. Finalement, j'ai ma musique au pays, il faut quand même faire quelque chose. Et c'est ça qui avait motivé notre changement. Et l'implication militante, là, je reprends encore la justification, c'est elle qui nous avait amené à structurer nos mélodies et à insérer dans ces mélodies des messages. Des messages, mais malgré tout, on chantait beaucoup de chansons d'amour. Et on chantait parfois d'autres occasions seulement pour amuser les gens. Mais il y a de ma génération, les chansons sont essentiellement inspirées dans le mouvement de libération qui se déroulait à l'époque. Et après l'indépendance, nous avons gardé la même ligne parce que la dépendance et la décolonisation sont des concepts qui ne sont pas exactement la même chose. Et la corruption est arrivée, toute une série de maladies sociaux sont arrivées, toute une série de problèmes aussi sont là au pays. Et quand c'est comme ça, on reprend les armes. C'est ça que, plus ou moins, on continue à voir dans les générations conséquentes qui sont arrivées à l'activité après nous. Et ils chantent l'amour, mais ils sont toujours attentifs. Toujours qu'il y a quelque situation, quelque chose qui ne va pas bien, et ils essaient de dénoncer, de suggérer des solutions, mais il n'y en a pas le même objectif qu'avant. Maintenant, c'est de corriger. Après, avant, c'était de désenraciner les affaires et donner des autres racines aux choses.
On va écouter un autre morceau, mais sur ce thème de déracinement d'autrui, mm-hmm. ou du pouvoir d'ailleurs, mm-hmm. Je lis en ce moment un livre d'un Marocain qui parle précisément de l'époque de la libération contre le protectorat français au Maroc. Et parmi les voix multiples que ce récit, ce texte évoque ou met sur ses pages, je vois dans les jeunes voix des personnages du livre des gens qui savent qu'ils militent, qu'ils savent qu'ils vont à l'encontre des pouvoirs coloniaux, mais qui, à l'intérieur, ne savent pas encore et sont en train de former une identité propre. Et donc, les discussions entre les divers militants, c'est quoi un nationaliste, c'est quoi un vrai Marocain, c'est quoi la vision qu'on... Est-ce que c'est en déracinant, on s'est trouvé une identité, ou en embrassant et faisant les premières chansons créoles, on savait où on allait? Ou est-ce que c'était un processus de découverte par cet acte aussi de déracinement? Pour vous, est-ce que c'était clair où on allait? Ou est-ce que c'était on se lance dans une aventure qui nous a mené malheureusement où on est arrivé?
Si vous voulez, c'est une excellente question. Et Amilcar Cabral, que peut-être vous aurez déjà entendu parler, avait analysé cette question. Le problème identitaire ne se pose pas pour les masses. Parce qu'eux, ils sont là, ils gardent leur esprit, leur tradition, ils évoluent selon ces principes et les règles à eux, de l'histoire. Mais ce qui se pose, c'est que les couches sociales plus élevées, là, où la petite bourgeoisie locale, coloniale et tout ça, c'est elle qui a un problème identitaire. Parce qu'elle est un produit d'un conflit, conflit et coexistence culturelle entre ses origines sociaux, historiques, culturelles et son rapport avec le régime dominant, colonial, étranger. L'école était installée par le régime colonial, alors l'école, c'est une fabrique, c'est une production, c'est une chaîne de production de façon de penser, vision du monde et autres. Bon, le régime colonial avait quand même utilisé l'école pour minimalement former une certaine couche sociale dans les colonies, mais en même temps en le aliénation, hein, en installant une aliénation, comme que en installant un software là, dans lequel il arrive parfois même à ne pas avoir honte d'être soi-même. Vous voyez? Bon, c'est cette couche sociale là qui a toujours un problème identitaire qu'il dépasse ou pas en fonction de son engagement et sa lutte personnelle collective pour dépasser les traumas coloniaux. Vous voyez, c'est dans ce sens que nous étions, nous les jeunes qui étaient passés par cette centre de production de mentalité de l'école coloniale. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on lisait beaucoup. Nos familles avaient des livres à la maison, on lisait, on écoutait la musique, on voyageait, et au fur et à mesure, on constatait les différences. Et on constatait que finalement, là, ce que l'humanité a de commun, ça c'est inquestionnable, de commun toute l'humanité a que la différence. Alors ça c'est en valeur. Comment? Il faut la cultiver chacun à partir de son espace et aller à la rencontre de l'autre pour garder ce qui nous est commun et pas se combattre pour ce qui nous est commun. Si on se combat pour ça, on va détruire toute une ligne de communication commune. Et bon, retournant à la question que vous m'avez posée personnellement, là, la conscience, elle se prend graduellement, au fur et à mesure qu'on évolue. Et il y a des moments que parfois on se trompe, on commet des erreurs, mais hein, il y a des autres où on a la chance d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui nous fait reprendre la route, prendre le bon chemin. Et c'est un processus. C'est à mon avis de réponse à ce genre de questions, c'est jamais oui, non.
En studio, Ernesto Dabo, il est en scène au Nanu d'Afrique le 13 juillet. On va continuer avec une prochaine chanson. Ça, c'est la chanson Juste. Justiça. Sur l'album tiré L'Embrassa qui est sorti l'année dernière.
ça, Dieu sait 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 ça. Justiça, 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 Salma, Sakura, Salma. Justiça, 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 justiça.
On CKUT 90.3 FM in Montreal. Our guest in studio is Ernesto Dabo from Guinea-Bissau, and he'll be playing Sunday the 13th of July as part of the 28th edition of Nuit d'Afrique. Real pleasure to have one of the important figures and birthers of a whole national kind of music, Creole music of Guinée-Bissau. Sur l'album, vous parlez, il y a une chanson
Sabourin.
Mm. On avait parlé de ça, les racines folkloriques, l'expérience métropole, la modernisation, l'instrumentation, la création d'une musique reflétant une réalité de libération. La chanson Sabourin, décrivez-la nous. Quand vous parlez, je vais essayer de la trouver, mais peut-être cette rencontre, vous m'indiquez que c'est une chanson qui l'exprime bien ou le démontre bien, cette expérience.
C'est ça. Nous avons un genre musical chez nous qu'on appelle Tina. Et Tina est jouée avec une calmasse sur l'eau et particulièrement pour nos dames, nos mamans, nos tatis, dans le village, en Saint-Urbain, partout. Disons que c'est le genre national le plus important qu'on a dans notre folklore urbain. Et quand j'ai décidé d'introduire cette pièce dans mon CD, l'intention c'était de faire voir que c'est possible de garder les racines de toute une culture, mais en l'ouvrant en même temps au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait introduire le violoncelle dans cette mélodie, parce que mon problème, c'est que, à mon avis, les instruments sont là pour être utilisés pour tout le monde. C'est préconçu de considérer que le violoncelle, c'est pas un instrument africain, le tam-tam, c'est pas un instrument européen. Ça, c'est des faux questions, parce que les instruments sont là. C'est comme le cellulaire, comme les automobiles, comme les bateaux et les avions. Ils sont là pour être utilisés pour qui est capable de l'utiliser. Et nous, en tant que créateurs musicaux, là, nous croyons que tous les instruments devront être à notre disposition. C'est à nous d'être capables ou d'imaginer quoi faire avec. Et bon, nous avons essayé de faire de faire parler le violoncelle à notre façon, faire parler notre créole.
Avec ou sans
accent? Oh non, faut, l'accent c'est secondaire. Et là, nous avons eu la chance de trouver un extraordinaire musicien, c'est M. Claude Lamothe, à qui je rends hommage, que nous avons fait un travail extraordinaire dans cette chanson. Et à part ça, j'ai découvert que finalement, là, comme on dit ici, il y a une communion de point de vue instrumental et sonore entre un instrument qu'il y a ici au Québec et un autre instrument qu'on a chez nous avec lequel on joue le tina. Le tina, on le joue avec des morceaux de bois taillés qui on l'appelle palmas. Bon, c'est qui remplace le claque de main, là. Si jamais on n'a pas les instruments, on joue avec les mains, tout simplement. Et ça donne une sonorité pareille à ce qui sort de la cuillère québécoise. Et quand j'ai entendu la cuillère québécoise, je me suis dit, mais hey, il y a quelque chose à nous ici. Bon, disons dans le sens que j'ai découvert que la sonorité de la cuillère et la structure de ces sons-là étaient pareils. Et là, je me suis dit, non, voilà quelque chose qu'il faudrait que j'amène chez nous. Et après mon séjour, je suis rentré au pays, j'ai amené deux cuillères. Et j'ai parlé de ça et j'ai démontré ça à mes amis. Et tout le monde m'a dit, mais quand même. Hein. Bon, ça, c'est un argument que j'ai pour justifier que finalement, la créativité ne dépend pas des instruments. C'est les instruments qui sont utilisés pour la création. Et alors, tout dépend de qui est le créateur, qu'est-ce qu'il veut faire au départ. S'ils veulent faire quelque chose, qu'ils trouvent qu'avec une sitar indienne, là, ils peuvent faire sa musique, pourquoi pas? L'inverse, s'ils veulent faire une musique ici, ils veulent utiliser une flûte Peul, pourquoi pas? Et ça se voit maintenant petit à petit. Il y a déjà des groupes qui fonctionnent. Il y a un trio jazz à Paris, là, que c'est un cora, piano et calebasse.
Oui.
Vous voyez? Pourquoi pas? C'est ça le problème. Oh, on a un problème. Pas de problème, disons. Mais ça, c'est ça ma vision de la question.
Vous êtes. Merci d'être venu, Ernesto Dabo. Vous êtes. Un vrai funky revolutionary, un révolutionnaire. Merci d'avoir partagé un peu votre création et votre parcours créatif. Merci d'être venu. Vous êtes en spectacle le 13 juillet, c'est un dimanche, Club Balatou, 20h30. Mm-hmm. Également, votre album L'Embrassa, très disponible sur iTunes et également sur... vous avez un site?
Oui, j'ai un site, ernestdabo.com.
J'espère effectivement à la prochaine.
Merci beaucoup.
Merci. Ernesto Dabo, 13th of July. Check him out at Club Balatou as of 8:30, part of the 28th edition of the Nuit d'Afrique Festival. A true funky revolutionary. We'll be back right after this last song.
Kaupera samura pa kunse kamara. Sabura sukuru pa kunse kamara. Kaupera sabura pa kunse kamara. Sabura sukuru pa kunse kamara. Hey sabura hey.
Sabura sukuru pa kunse kamara.
Mbala sabura me.
Sabura sukuru pa kunse kamara.
Mana hey, mana.
Mana, sabura sukuru pa kunse kamara.
Mana, ay mana, kore. Mana,
sabura sukuru pa kunse kamara.
Kaupera sabura pa kunse kamara. Sabura sukuru pa kunse kamara. Kaupera sabura pa kunse kamara.
Sabura sukuru pa kunse kamara.
Hey sabura hey.
Sabura sukuru pa kunse kamara.
Bala Zabura me.
Zabura Socorro pra conche camará.
Mana e mana.
Mana. Zabura Socorro pra conche camará.
Mana e mana. Kode mana.
Zabura Socorro pra conche camará.
Camara, sabura socorro pra conse camara. Não pera sabura pra conse camara.
Sabura socorro pra conse camara.
Ei, sabura aí.
Sabura socorro pra conse camara.
Bala sabura me.
Sabura socorro pra conse camara.
Mana e mana.
Mana. Sabura socorro pra conse camará.
Mana e ai mana, kore mana.
Sabura socorro pra conse camará.
Mana, kore ye. Mana, kore ye.
Mana, sabura socorro pra conse camará.
Bala sabura me.
Sabura socorro pra conse camará.
Bala sabura me.
Sabura socorro pra conse camará.
Ei, sabura aí.
Sabura socorro pra conse camará.
Ei, sabura aí.
Sabura socorro pra conse camará.
Funky Revolutions, Funky. Hey, yeah, yeah. Funky Revolutions, Funky.
Whoa,
Funky.
Oh, yeah, yeah,
yeah. Funky Revolutions, Funky. You are listening to Funky Revolutions.
The Mothership Cassette Archives, celebrating 25 years of Funky Revolutions. We end part one of episode 39, our interview with Ernesto Dabo, with a song from a second generation of Gumbe and rhythmic musicians from Guinea-Bissau, Super Mama Jumbo, Disan Namem Bambera.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Well, hello there. We're Barry Paquin Roberge, and we'd like to formally invite you to listen to our brand new single, The BPR Strut. Barry Paquin Roberge. Join us. You'll be fine.
Revolution.
The funk.
Revolution.
The funk.
CKUT 90.3 FM in Montreal.
For your mind and for your hips, this is music and sounds from the mothership. the Mothership Cassette Archives, 25 years of funky revolutions. Episode 39. We continue with our second part, this time the Maghreb, slavery, the African continent. Musicians from Algeria and Morocco, living and working in France, known as Gnawa Diffusion. In 2012, we got to speak to the leader, Amazigh Kateb, about the origins of Gnawa music and its encounter with other rhythmic forms.